Bienvenue dans Minuit Cauchemar, chronique de la nuit noire et de l'épouvante. Le podcast qui explore les histoires qui glacent le sang, les cauchemars qui hantent vos rêves les plus profonds. Dans l'obscurité de Minuit Cauchemar, nous plongeons aujourd'hui dans les méandres des crimes où les lignes sociales se croisent, où la jalousie et la lutte des classes se transforment en tragédie meurtrière. Deux faits divers marquants serviront de toile de fond à notre exploration. L'histoire sombre et troublante des sœurs Papin, emblème de la servitude et de la révolte dans la France des années 30, et l'affaire Flactif, qui dévoile les abysses de la haine et de l'avidité dans les montagnes alpines. Préparez-vous à être immergé dans les ombres où se croisent les destins, où les rêves se muent en cauchemars, dans cet épisode de Minuit Cauchemar. Le crime des sœurs Papin, en février 1933, fait partie des affaires les plus retentissantes de l'histoire du fait divers en France. Sa violence inouïe, ses motivations floues, les questions psychiatriques qu'il pose et les passions qu'il a déchaînées en font un cas singulier. Criminel sanguinaire, pour les uns, victime de l'oppression bourgeoise et de la lutte des classes pour les autres, les bonnes ont divisé l'opinion et enflammé les philosophes, écrivains et politiques. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers toute la ville. Nous sommes le 3 février 1933. Au Mans, et partout, il n'est question que de l'effroyable meurtre de Madame Lancelin et de sa fille Geneviève, dont les corps affreusement mutilés ont été découverts la veille au soir au domicile familial. On sait même déjà qui a fait le coup. Si, ce sont les bonnes, deux sœurs de 27 et 21 ans, les filles Papin. La veille, jeudi 2 février 1933, vers 19h, René Lancelin, 63 ans, rentre chez lui, rue Bruyère, où il doit retrouver son épouse Léonie, 53 ans, et sa fille Geneviève, 29 ans. En ce soir de chandeleur, la petite famille est invitée à dîner chez Albert Ringard, le frère de Léonie, qui réside non loin de là, rue des Chanoines, dans la vieille ville du Mans. Si son pas est tranquille, l'ancien censeur au comte de la Sarthe qui revient du cercle a connu des jours meilleurs. Depuis le printemps 1931, lui et plusieurs autres administrateurs font l'objet d'une plainte pour abus de confiance. Les faits qui leur sont reprochés sont graves. On parle d'escroquerie, de distribution de dividendes fictifs, d'appel à l'épargne à l'aide de faits faux. Finalement, une ordonnance de non-lieu le lavera de tout soupçon, en juin, mais pour l'heure, l'instruction est en cours. Arrivé devant son élégante maison du quartier chic de la ville, Monsieur Lancelin remarque que les volets sont déjà fermés. C'est inhabituel, mais Léonie aura sûrement une explication. Il glisse sa clé dans la serrure et pousse machinalement la porte. Mais celle-ci lui résiste. Les verrous ont été poussés de l'intérieur. Ça, par exemple, en voilà une farce. Il sonne. Personne ne vient. Il appuie encore, plus longtemps. Toujours rien. Bizarre. Peu de temps après, un brigadier et deux agents sont sur zone, comme on dit dans le métier. La grande maison silencieuse est plongée dans l'obscurité. Il n'y a plus d'électricité. C'est donc à la torche électrique que les deux courageux policiers entreprennent leur exploration. Le cœur battant, ils poussent jusqu'au palier où ils découvrent une scène d'horreur. Devant lui, deux corps de femmes, affreusement mutilés, gisent dans une mare de sang. Elles sont méconnaissables, mais le doute, si doute il y a eu, est vite dissipé. L'agent vient de retrouver Léonie et Geneviève Lancelin. Et les bonnes ? Mais oui, les bonnes, elles sont peut-être mortes, elles aussi. Les enquêteurs grimpent jusqu'à leur chambre. La porte résiste un peu, mais le verrou cède sans trop de peine. Christine et Léa Papin sont là, bien vivantes, collées l'une à l'autre, dans la douce lueur vacillante d'une bougie. Les deux femmes, cuisinières et femmes de chambre depuis presque 7 ans, auprès des Lancelin, se lèvent, enfilent leurs bas et leurs peignoirs. Dans cette tenue, elles rejoignent le commissariat central avant d'être incarcérées à la prison du Vert-Galant. Les deux accusées expliquent, à un jury uniquement composé d'hommes tirés au sort, que ce soir-là, vers 6h, un court-circuit, provoqué par le fer à repasser, fait disjoncter l'électricité du second étage de la maison. Madame Lancelin aurait reproché l'incident à Christine Papin. L'enquête révélera que Christine Papin a probablement tué Léonie et Geneviève Lancelin, en leur arrachant les yeux alors qu'elles étaient encore vivantes. Léa ayant donné des coups de marteau et de couteau post-mortem. Tout au long du procès, pourtant, les deux sœurs se sont appliquées à partager les responsabilités jusqu'aux actes commis, à chacune son meurtre. Les trois psychiatres, entendus lors du procès, se sont accordés sur la responsabilité pleine et entière des accusés. Le 30 septembre 1933, à 1h du matin, au terme d'une délibération express de 40 minutes, Christine Papin est condamnée à mort. À l'énoncé de la sentence, elle tombe à genoux. Elle ne fut pas guillotinée. Le président Albert Lebrun commua sa peine en travaux forcés à perpétuité. Mais au bout de 3 ans et demi, son état mental se dégrada. Inapte à la prison, elle est finalement morte dans la section psychiatrique de l'asile de Saint-Méen de Rennes le 18 mai 1937. Léa Papin bénéficie de circonstances atténuantes. Elle est condamnée à 10 ans de travaux forcés, assortie de 20 années d'interdiction de séjour. Elle sera libérée de la prison de Rennes en 1943, après avoir purgé sa peine jusqu'au dernier jour. À sa sortie, elle rejoindra sa sœur Clémence à Nantes. Elle est décédée à 90 ans dans une clinique nantaise le 24 juillet 2001. Autre affaire criminelle mettant en exergue la lutte des classes, l'affaire Flactif. En 2003, Xavier Flactif, sa femme et leurs 3 enfants disparaissent du jour au lendemain, mystérieusement de leur domicile au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Ce n'est que quelques mois plus tard que le doute sera définitivement levé. Le samedi 12 avril 2003, Mario, 14 ans, vient passer les vacances de Pâques chez sa mère, Graziella, une femme de 36 ans, remariée au promoteur immobilier Xavier Flactif. Ils habitent en Haute-Savoie, dans la commune du Grand Bornand. Mario va pouvoir retrouver son demi-frère, Grégory, 7 ans, et ses demi-sœurs, Laetitia et Sarah, 9 et 10 ans. En arrivant, Mario n'aperçoit pas le Toyota 4x4 rouge de son beau-père. Il n'y a personne pour ouvrir la porte et sa mère n'est pas joignable. La gendarmerie est avisée de cette absence qui paraît pour le moment temporaire. Dans la soirée, les restaurateurs du coin entrent dans le chalet par une porte-fenêtre qui n'était pas verrouillée. La maison est vide, il n'y règne aucun désordre, tout a été rangé. Le lendemain matin, après une nuit d'attente, Mario retourne sur place. Il remarque 2 ordinateurs allumés, un dossier dans la cheminée, des lits, sans drap. Les gendarmes arrivent sur place, une 50aine de militaires quadrille le secteur du Grand Bornand. La rivière du Born est explorée tout comme les rives du lac d'Annecy, à la recherche du 4x4 rouge. Un hélicoptère survole les lieux, mais rien. Le 20 avril, 8 techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN, s'installent pour 3 jours dans le chalet. Au sous-sol, un carré de moquette murale a été découpé. Une douille de petit calibre, provenant sans doute d'un pistolet automatique, est retrouvée au dernier étage. Le 22 avril, le procureur d'Annecy ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Le 13 mai 2003, le Toyota Land Cruiser est retrouvé sur un parking de l'aéroport de Genève, généralement fréquenté par les frontaliers. Le véhicule a lui aussi été nettoyé. Un morceau de moquette a été découpé au cutter. Il y a des traces de sang. Le père Xavier Flactif, acculé par des déboires d'un financier, aurait-il commis l'irréparable ? Ce n'est que quelques mois plus tard que le suspense sera totalement levé, avec une issue plutôt inattendue. Le locataire du chalet, David Otiat, est vite mis en cause. La jalousie serait au centre de l'affaire. Les gendarmes connaissent David Otiat. Dès le début de l'affaire, ils ont remarqué cet individu qui, depuis une clôture située à quelques dizaines de mètres du chalet, les observe, parfois à l'aide d'une paire de jumelles. Un intérêt qui dépasse la simple curiosité, habituelle dans ce genre d'affaires. La haine exprimée par David Otiat à l'égard de Xavier Flactif va les inciter à pousser leurs investigations. Ils vont alors découvrir la face cachée de cet homme, mécanicien le jour et délinquant la nuit. Devant les enquêteurs, David Otiat avoue rapidement avoir tué les 3 enfants, Graziella Ortolano, puis Xavier Flactif, le 11 avril 2003, la veille de la découverte de leur disparition. Il conduit également les gendarmes dans la forêt où il a brûlé les 5 corps. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs vont retrouver plusieurs objets provenant du chalet Flactif. DVD, chaîne Hi-Fi, téléphone. Ils vont découvrir que le meurtre a été ourdi par les 4 amis, tous originaires du Nord et jalousant la réussite des Flactifs, leur grand chalet, leur grosse voiture. Une envie virant à l'obsession, chez David Otiat et Alexandra Lefebvre, vouant une véritable haine à l'égard de leurs anciens propriétaires. Après avoir visionné un documentaire évoquant l'affaire Stranieri, David Otiat imagine l'impensable, faire disparaître les flactifs et s'approprier leurs biens. Un scénario fou qu'il va ruminer pendant de longs mois en compagnie de sa compagne et des Haremza. Avec Stéphane, qui partage sa passion pour le tuning, David Otiat multiplie les petits délits la nuit. Vol de voiture, siphonnage de carburant. Un an avant les meurtres, les deux hommes incendient même un chalet en construction appartenant à Xavier Flactif. Le quatuor va ressasser son ressentiment et sa jalousie jusqu'à ce mois d'avril où David Otiat décide de passer à l'acte, seul. Stéphane Haremza, ayant renoncé, ne pouvant se résoudre à tuer des enfants. Le procès s'ouvre au mois de juin 2006 dans la cour d'assises de la Haute-Savoie. Trois semaines au terme desquelles David Otiat sera reconnu seul auteur du quintuple meurtre et condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Sa compagne, Alexandra Lefebvre, accusée d'avoir soufflé sur les braises et nettoyé les cendres, écope quant à elle de 10 ans de réclusion. La lutte des classes se révèle être bien plus qu'un simple contexte social dans le monde du crime. Elle devient une toile de fond obscure où s'entremêlent la jalousie, la frustration et la rage, engendrant des tragédies cauchemardesques. Alors que les ombres de la lutte des classes planent, Minuit Cauchemar vous invite à réfléchir sur les sombres reflets de notre société, où les frontières entre la réalité et l'épouvante s'estompent, où chaque pas peut vous conduire vers l'abîme. Méfiez-vous des ombres qui vous entourent, si vous osez regarder. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes de Minuit Cauchemar. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à ajouter des étoiles sur Apple et Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux.